Amis, quand j'étais en prière tout à l'heure, le Seigneur m'a convaincu que ce qui était le plus important ce matin pour nous, c'est que nous soyons à l'écoute de la parole, non pas de ce que moi je peux vous dire, mais de ce que l'Écriture nous dit, et que vous receviez ce message de la part de celui qui l'a inspiré, le Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous voulons te remercier parce que c'est dans ta parole que nous voulons nous plonger et nous laisser purifier par elle, par ce lavage d'eau qu'opère la parole, afin que toutes nos pensées soient aussi amenées captives à l'obéissance du Christ. Bénis-nous dans ces moments, donne-nous un cœur qui écoute, donne-nous une intelligence réveillée et que ta bénédiction soit sur nous tous pour terminer cette retraite en Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez vos feuilles et les lectures proposées, nous allons les faire parce que ce qui compte, n'est pas que vous m'écoutiez, mais c'est que vous écoutiez la parole. Dans ce dimanche matin du 13 novembre, nous poursuivons ce thème général, l'Esprit de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Et, comme vous le savez, c'est notre troisième et dernier volet, la puissance et les opérations du Saint-Esprit dans l'Église et dans les croyants. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître aux Corinthiens. Nous en avons déjà fait hier soir la lecture, parce que c'est un chapitre bien important pour notre sujet. Nous relisons au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Il faut que cela, cette page, vous devienne familière. Pour ce qui concerne les dons spirituels, donc c'est les dons qui viennent de l'Esprit. Il y a le don de l'Esprit, et l'Esprit lui-même a des manifestations et qui peuvent être vu en chaque croyant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés par des idoles muettes, ces idoles dont parle le psaume 115, qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas. Vous savez comment vous étiez, lorsque vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, nul ne parle par l'Esprit de Dieu en disant « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Donc vous voyez là la Trinité, hein, qui est mentionné en quelque sorte. Le même Esprit, le même Seigneur et le même Dieu. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, non pas comme décoration pour soi-même, mais si le Seigneur nous fait un don,
par son esprit, c'est pour qu'il soit employé pour les autres, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, et tout cela on peut l'étudier, ces paroles de sagesse, de connaissance déjà dans l'Ancien Testament. Selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, des dons de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, divers sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme chacun le désire. Non. Comme il veut, qu'est-ce qu'il veut? L'esprit, comprenez-vous? En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Et nous vous parlions hier soir du Christ total. Il est vu tête et corps réunis. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Donc le baptême du Saint-Esprit a réalisé le corps de Christ. Les individus ne sont plus isolés, mais forment un seul corps, qu'ils soient juifs ou grecs, soient esclaves, soient libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et puis ensuite, alors, vous avez le respect que chaque membre doit avoir pour l'autre. Et au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Nous espérons que vraiment, dans cette retraite, vous avez pris conscience de cela. Chacun pour sa part. Au fond, de quoi sommes-nous membres? Du corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, on les connaît. Deuxièmement, des prophètes. Ceux qui ont le don, ce n'est pas nécessairement des gens qui annoncent l'avenir, le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit la parole du trône de Dieu dans son cœur et qui communique cette parole. Et l'effet de cette parole, quand c'est une parole prophétique, elle console, elle édifie et elle exhorte. Les trois choses, vous avez cela dans le chapitre 14e. Une vraie prophétie, eh bien, c'est une parole qui édifie, non pas qui vous démolit, mais elle édifie, elle vous réveille, elle exhorte, et puis elle vous console. Ça répond vraiment à vos besoins. C'est cela une vraie prophétie. Et toute prophétie doit correspondre à l'enseignement biblique. Quelqu'un qui vous dirait qu'il a le don de prophétie et qui vous dit des choses qui ne sont pas dans l'Écriture, vous rejetez cela. C'est faux. Alors, verset 18, Dieu a établi dans l'Église, premièrement donc les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Ensuite, il y a dans les dons de miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues, puis alors l'équilibre, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais montrer une voie plus excellente, et ce dont le meilleur, c'est l'amour. C'est ce qui compte. Maintenant, nous passons à Romains, chapitre 12e, qui est aussi un chapitre que je voudrais voir dans chacune de nos vies. Vous avez le chapitre 12, et c'est bien que vous suiviez dans vos Bibles. Et quand vous êtes seul et que vous lisez dans vos chambres, nous l'avons dit souvent, lisez à haute voix, parce que comme cela, vous voyez et puis vous entendez, et cela descend en vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Et qu'est-ce que sont les compassions de Dieu ? C'est tout l'amour qu'il nous a manifesté en nous donnant son Fils qui est mort pour des impies. Eh bien, quand on voit ce que Dieu a fait pour nous en nous donnant son propre Fils, qui est devenu l'homme de douleur et qui a porté nos offenses, qui a réglé toute cette question du péché, eh bien, en réponse à ses compassions, je vous exhorte à offrir vos âmes, vos corps, comme un sacrifice vivant. Habituellement, un sacrifice, est-ce qu'il est vivant? Non, il est mort. Mais nous devons être des sacrifices vivants. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais nous ne pouvons être un sacrifice vivant que si nous sommes nés de nouveau. Donc il y a eu mort aussi, mais c'est la mort du vieil homme. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, il vous donnera vraiment de pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Non pas ce qui est agréable à vos yeux, mais ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et ce qui est parfait à ses yeux. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives. Et ça, c'est vrai aussi pour l'Église, individuellement et pour l'Église. Des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Ça, c'est pas la foi qui sauve. Mais Dieu nous a donné à chacun une mesure de foi. Par exemple, Barnabas, si on lit les Actes, il avait reçu une grande mesure de foi et il était capable, pour subvenir aux besoins des saints, de vendre une propriété et d'apporter le prix aux pieds des apôtres. Mais voilà qu'il ça faisait bien quand même qu'un homme fasse une chose pareille. Mais il y en a un qui a regardé ce que Barnabas avait fait, et il en a parlé avec sa femme. On pourrait aussi faire quelque chose, nous. C'était qui? Ananias et Saphira. Mais ils n'avaient pas la même mesure de foi, comprenez-vous? De pouvoir vendre et tout donner. Alors ils ont discuté. On va vendre, mais on va garder une partie. Mais ça, ils ne l'ont pas dit à Pierre. Ils ont vendu, et puis ils ont allé, enfin lui d'abord, Ananias, et il en avait gardé une partie. On peut dire, mais en fait, c'était pas mal. Il faut bien une poire sur la soif, on met ça de côté. Mais il a menti au Saint-Esprit, il a fait croire qu'il donnait tout. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait menti au Saint-Esprit, il est mort. Alors vous voyez comme la parole nous exhorte. Il ne faut pas dépasser la mesure de foi. Vous lisez des biographies et vous êtes excité, oh mais c'est merveilleux cet homme, ce qu'il a fait. Ben, moi je vais faire la même chose. Est-ce que Dieu vous l'a demandé? Est-ce que vous avez cette mesure de foi? Ceux qui ont voulu imiter un Georges Müller, par exemple, celui qui a fondé ses orphelinats, parce qu'il avait été appelé à faire cela. Et ça a été une réussite merveilleuse. Dieu a toujours pourvu. Mais si vous, vous voulez partir dans votre chair en disant, ben moi, je peux aussi, ce sera la faillite. Alors, demandez au Seigneur qu'il vous révèle la mesure de foi. Et puis réjouissez-vous si d'autres ont plus de foi pour agir. Verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce que vous faites, eh bien, me concerne aussi, ce que je fais vous concerne. Nous nous appartenons les uns aux autres. C'est ça, vraiment, la communion du Saint-Esprit dont nous vous avons parlé ce matin. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, car tout est grâce. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si donc on prophétise, s'il y a une prophétie, eh bien ça doit toujours être en accord quand il est dit avec la foi. Le mot foi ici a le sens de l'enseignement des Écritures. La foi, c'est l'ensemble des vérités révélées ici, parce qu'il y a différents sens au mot foi. Alors, il faut toujours qu'une prophétie soit en accord avec les Écritures. Et il se passe en ce moment des choses tout à fait épouvantable des gens, parce que on vous dit que vous avez le don de prophétie, et dans certaines églises, alors il y en a un homme qui se lève et puis qui dit quelque chose, il prend même une autre voix, et c'est très frappant. Hein. Quand ils prophétisent, ils ont une autre voix. Pourquoi? C'est de la singerie. Gardez votre voix. Parlez distinctement, ne prenez pas une autre voix, vive l'Éternel, je ne sais pas trop. Il n'y a pas besoin de faire les singes. On n'est pas sur la planète des singes. Et puis, on n'a pas à imiter ce que les autres font, ou ce que le monde fait, ou à fabriquer des choses. Ça m'étonne qu'on ne comprenne pas cela. On veut aller partout apporter la joie, alors on fonde un groupe qui s'appelle Fabricants de joie. Mais qu'est-ce qui fabrique ça? La joie, ça ne se fabrique pas. La joie est là. Mais il n'y a plus de discernement. Et si ça marche, bien voilà. Et les gens aiment ça, alors on y va. On est bien loin de la parole. Et vous savez, on aura à répondre à tout. Si c'est le diaconat, verset 7, que ce soit dans un esprit de service, pas de murmure, mais de service. Parce que, justement, on a établi le diaconat à cause des murmures. Et il y en a qui font du diaconat en murmurant. Ça ne va pas. Si on a été établi dans le diaconat, eh bien, qu'on le fasse sans murmure, dans un esprit de service, comme le Seigneur a servi. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse en sonnant de la trompette pour faire savoir qu'il a donné. Non, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Celui qui préside, bien qu'il le fasse avec empressement. et celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Il faut garder cette joie même quand on est en présence de personnes qui sont dans la peine et dans la détresse. Il faut qu'elles voient que nous restons dans la joie et nous apportons aussi cette joie. Alors vous vous imprégnez de ces paroles. Maintenant nous allons dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons prendre depuis le verset 11e. Souvenez-vous donc de ceci, dit Paul. Autrefois, vous païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, c'était les Juifs, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là, donc avant leur conversion, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce temps-là, pour eux-mêmes, quand vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde? Mais maintenant, que c'est beau, il y a eu un changement, mais maintenant, en Christ, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. On retrouve cette paix dont nous vous avons parlé le premier jour. C'est lui qui est notre paix. Lui qui des deux, d'Israël et des païens, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Ce n'est pas le mur de Berlin, ça, hein, mais il y avait un mur entre Israël et les païens. Il l'a détruit. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses ordonnances et ses dispositions. Donc, on ne se remet plus sous la loi. Le Christ est venu. La loi avait été donnée pour faire connaître à l'homme son incapacité de faire le bien. Et il y en a qui voudraient toujours vous remettre sous la loi du « fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Ce n'est pas la liberté en Christ. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et ses dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, vous retrouvez ce seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Voyez-vous, quand on est devant la croix et qu'on contemple le Seigneur dans ses souffrances, en se souvenant de lui, faites ceci en mémoire de moi, bien, quand on a vu les yeux du Seigneur et qu'on regarde notre frère à côté, on a le même regard, parce qu'on se voit misérable. Et on estime l'autre supérieur à soi-même. C'est les sentiments qui doivent être dans le croyant. Verset 17. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin de la paix, loin, et la paix à ceux qui étaient proches. C'est les Juifs. Car par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. C'est toujours le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et qui est la maîtresse pierre du coin? Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà le temple saint. Le corps de Christ devient le temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, là, nous apprenons que Dieu veut vraiment habiter dans ce temple qui est formé des enfants de Dieu, des rachetés du Seigneur. Alors, le vrai temple de Dieu, c'est l'ensemble des rachetés. Et pour que le Seigneur y soit, est-ce qu'ils doivent être très nombreux? Deux ou trois. Chapitre 18 de Matthieu, verset 20. Chez les Juifs, comme je l'ai souvent rappelé, combien faut-il être pour que ce soit valable? 10. En souvenir de la prière d'Abraham pour Sodome. Il s'est arrêté à 10. Il y avait 10 justes. Dieu dit, s'il y a 10 justes, j'épargne la ville. Mais il n'y avait pas 10 justes. Alors, maintenant, nous passons au chapitre 4 des Éphésiens. Parce que le Seigneur m'a montré que c'était très important que vous soyez plongés dans ces paroles. S'il y a l'unité de l'esprit, il y a l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, Paul était en prison à Rome, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous ne pouvons pas fabriquer l'unité de l'esprit. Elle existe. Nous recevons cette parole avec la certitude que l'unité de l'esprit existe. Mais elle est sans cesse menacée à cause de nous-mêmes, de sorte que nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et à nous souvenir, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous voyez comme ça revient sans cesse. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Et quelle est notre vocation? C'est une vocation terrestre ou céleste? Céleste. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de foi. Vous voyez que ça revient, cette mesure du don de foi que vous avez vu dans quel épître? Où avons-nous trouvé cette mesure? Dans Romains, au chapitre 12. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, c'est du Seigneur qu'il est parlé, et il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est lui-même qui a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est là que dans l'Ancien Testament, les âmes, les personnes qui mouraient, eh bien, était recueilli dans le séjour des morts. Et ce que l'on pense, c'est que quand le Seigneur est ressuscité, il a enlevé ceux qui étaient dans le séjour des morts, les croyants, et il les a emmenés en haut dans le paradis. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Il a fait donc des dons aux hommes. Ça, ce sont les ministères que le Seigneur a donnés. Il n'est pas dit qu'ils sont sortis d'une école biblique. Ils sont donnés par Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une école biblique. Mais il faut d'abord être assuré que c'est le Seigneur qui nous conduit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est des dons que Jésus lui-même a fait pour le bien de l'Église. Ce sont donc les ministères. Il y a les dons de l'Esprit, puis il y a les ministères, mais qui sont donnés par le Seigneur. En vue de quoi, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, il doit y avoir une croissance en chacune de nos vies, dans la connaissance du Seigneur, et pour cette croissance, eh bien, Dieu emploie dans l'Église des ministères particuliers, et c'est pourquoi on peut chérir aussi les personnes que le Seigneur emploie pour édifier son Église. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et entraînés à tout vent de doctrine. Mais vous voyez, il faudrait que dans toutes les Églises, il y ait l'ensemble des ministères. Mais quand on veut tout diriger ou être pasteur et tout faire, alors qu'on n'a pas tous les dons, ben il y a misère dans l'Église. Tandis que si on reconnaît que le Seigneur a divers ministères et que nous avons tous besoin les uns des autres, alors c'est une Église où il y a de la vie et du progrès. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, est-ce que ça nous suffit d'être une jointure?
Oui.
J'espère. Si le Seigneur veut que ce soit une jointure, on ne verra pas moins. Mais la jointure, elle est nécessaire dans le corps. Il y a des membres qui sont visibles, on l'a lu dans le chapitre 12. Mais s'il y avait que les membres visibles, sans qu'il y ait les jointures, qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, si vous êtes une jointure, bénissez Dieu d'être une jointure. Oh, qu'il y ait des jointures dans nos églises. Vous comprenez ce langage? Alors, ce qui compte, c'est d'être dans le corps. C'est lui qui nous a placés dans le corps comme il l'a voulu. Mais vous voyez ce verset 15, comme il est important. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent. Fortement, fortement. Si on a un ministère d'humilité, bien, il faut que ce soit fortement manifesté. Pire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. Mais si moi je n'ai pas ça, Si je veux être autre chose que ce que le Seigneur a fait de moi, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a de l'incohérence dans le corps. Et il n'y a plus d'édification. Or, il faut que on s'édifie dans l'amour. S'édifier dans l'amour. Et c'est cet amour de Dieu. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Et le but de ces retraites, c'était que vous appreniez à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est dans mon Église, en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle que nous avons en Jésus-Christ dans sa résurrection, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, nous vous l'avons cité. Ne donnez pas accès au diable, parce qu'il rôde autour de nous. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, la rédemption est accomplie, mais nous sommes sauvés en espérance. Quand est-ce que ce sera total? Quand le Seigneur reviendra, et que par sa puissance, il transformera nos corps d'humiliation en la conformité de son corps de gloire. Alors, en attendant, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et nous terminerons ces lectures par Colossiens pour montrer l'unité, tout ce qu'on ne pouvait pas voir encore hier soir. Colossiens 2, à partir du verset 8. Moi, j'irai depuis le verset 6. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême. Donc, nous pouvons nous considérer comme morts. Dans la foi, vous vous considérez comme morts. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et c'est par quoi qu'il a été ressuscité ? Par le Saint-Esprit. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, il n'est plus question d'être toujours sur nos offenses, elle est toujours sur notre culpabilité. On a dit souvent qu'au Québec, on est toujours culpabilisé. Eh bien, il y a la délivrance de la culpabilité. Quant à tout votre passé, le Seigneur ne s'en souvient plus. Il a jeté vos péchés derrière son dos. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, c'est la loi. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est toutes les puissances maléfiques, les puissances du malin. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, à la croix. Donc, il y a une délivrance totale. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Quand on vous dit, oui, moi j'ai eu une vision, il y a ceci et il y a cela, eh bien gardez votre vision, moi je garde la parole. C'est ce que dit Jérémie. La vision, c'est de la paille. La parole, c'est le blé, c'est le grain. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent, et qu'est-ce que vous retrouvez ? Les jointures. Par les jointures et les articulations. Peut-être que nous ne sommes qu'une articulation, mais s'il n'y a pas l'articulation, ça va mal dans le corps. C'est ça que je trouve merveilleux. Et le corps grandit d'une croissance qui vient de qui ? Qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer des règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. Eh bien, nous nous arrêtons là. Je crois que j'ai simplement obéi à la direction du Seigneur qui voulait que vous ayez sa parole ce matin dans vos cœurs. Maintenant, vous pouvez aller méditer dans vos chambres. Je prie pour vous et vous revenez dans une demi-heure. Vous êtes de nouveau avec votre groupe et puis on se retrouve donc à 11h moins le quart. Non. Avant que je parte, je reçois la revue réformée de la faculté d'Aix-en-Provence où j'ai beaucoup travaillé dans les années 1949 à 56, du temps de mon ami le doyen Lamorte, que certains ont peut-être, dont certains ont peut-être lu les écrits. Alors, dans la revue réformée, il y a un article justement sur le Saint-Esprit. Ça m'a frappé. Et c'est mon ami Kuhn, que je connais aussi depuis bien longtemps et qui a arrangé la Bible, comment vous l'appelez là? Parole vivante. Hein, maintenant c'est le semeur, hein, la Bible. Hein. Alors l'article de Kuhn dit ceci. Au sujet de l'esprit qui convainc de péché, cette conviction de péché a pris parfois des formes dramatiques lors des réveils des hommes et des femmes subjugués par la puissance de l'esprit, étaient saisis tout à coup d'un sentiment de péché et de perdition si fort qu'ils en étaient prostrés et qu'il tombait à genoux en pleurant et en implorant à grands cris la grâce de Dieu. Ben ça, je l'ai vu. Et dans nos camps de 1939-40, eh bien, on venait frapper à ma porte en Suisse, à 3h du matin, des gens qui pleuraient, des jeunes, et qui ne pouvaient plus dormir parce qu'ils étaient vraiment convaincus de péché. Et ils ont trouvé la paix, alors vous savez, on se levait pour eux, hein, et puis on priait avec eux. Mais c'était pas quelque chose, on n'avait pas forcé les choses, mais on avait donné la parole, puis la parole les a tellement travaillés. Eh bien, je peux vous dire que tous ces jeunes, je pense au directeur de la fabrique de chocolat Fabergé en Suisse, eh bien, il s'est converti et il est dans le Seigneur. Et il a maintenant 60 ans, et ça tient, hein. Mais ils étaient jeunes quand ils ont eu cette conviction de péché, qu'ils étaient vraiment perdus. Et ils n'ont pas frotté leurs yeux avec des oignons, ils ont vraiment pleuré sur ce passé. Et pourtant, je parlais à chaque jeune qui était là, et c'était assez frappant. Il y en a un qui me disait, j'ai dit, quand est-ce que tu t'es converti, toi? Mais moi, je suis converti depuis toujours. Hein, tu sais, c'en est plein en enfer, des convertis depuis toujours. Mais mon père, il enseigne dans l'assemblée, à Vevey. C'est pas parce que ton père enseigne dans l'assemblée que tu seras sauvé. N'est-ce pas? Mais vous voyez, il faut vraiment discerner. Et c'est là, à celui à qui vous remettrez les péchés, seront remis. Quand on a prié avec quelqu'un qui est vraiment dans l'angoisse au sujet du péché, on lui dit, mais le Seigneur est venu pour des pécheurs, donc il est venu pour toi, tu peux le croire, et si tu doutes, c'est là que tu pèches. Tu dois croire cette parole. Alors, on a vu vraiment des résultats, mais comme Kuhn le souligne, c'est vrai qu'il y en a qui ont été saisis. C'était pas l'ambiance de la salle qui faisait quelque chose. pour eux, sans nul doute, le Saint-Esprit était d'abord une puissance avant d'être le consolateur. C'était une puissance. Donc, vous voyez, on se rejoint. Puis le Saint-Esprit fait naître de nouveau à la vie nouvelle, hein, après avoir convaincu de péché. Ce qui est né de l'Esprit est esprit, dit Jésus à Nicodème. Comme Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit venant sur Marie, ça m'a encore encouragé, ainsi tout croyant naît à la vie en Christ par cette même puissance. Alors là, ceux qui ne l'ont pas, ben vous pourrez l'avoir, je vous le donnerai, j'en ai plus ici, mais on vous l'a donné le mois dernier, hein, les leçons de Marie, mère de Jésus. Ce qui s'est passé en Marie peut se passer en nous pour la nouvelle naissance. Et ce passage de la mort à la vie peut aussi se faire comme une irruption instantanée et puissante de la vie divine dans une existence humaine. Et ici, pensons à l'expérience de Luther dans la tour de Wittenberg, lorsqu'il réalisa que dans sa miséricorde, Dieu nous rend juste par la foi. Alors, aussitôt, écrit-il, je sentis que j'étais entièrement né de nouveau et que je venais de pénétrer par la porte ouverte dans le paradis. C'est ce que Luther a écrit et témoigné il y a plusieurs siècles. Calvin, un autre réformateur, le réformateur français, et qui était à Genève, Calvin aussi parle de la conversion subite par laquelle Dieu dompta et rongea à docilité son cœur endurci. Et vous voyez, c'était des conversions. Et puis, alors, il cite encore Pascal, ou bien pensons à ce papier que l'on a retrouvé cousu dans la veste de Pascal. L'an de grâce, 1654, lundi 23 novembre, hein, et là il avait noté, hein, ça. Depuis 10h30 du soir jusqu'à environ 00h30, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, vous connaissez, hein, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, seulement joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, joie, 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 pleure de joie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Oui, que je n'en sois jamais séparé. Hein? C'est Pascal, ça. Pour d'autres, c'est la prise de conscience de l'assurance du salut qui est l'expérience marquante de la puissance de Dieu. Ce fut le cas de Wesley ce soir où il s'était rendu dans une réunion où quelqu'un lisait l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Vers 9h, dit Wesley, 9h moins le quart, dit-il, en entendant la description que Luther faisait du changement que Dieu opère par la foi en Christ, je sentis mon cœur se réchauffer étrangement, je sentis que je me confiais en Christ seul pour mon salut, et je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Voilà un témoignage, vous voyez. Et immédiatement se réalisa pour lui la promesse. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Je témoignais publiquement devant tous les assistants ce que, pour la première fois, je ressentais dans mon cœur. Et ce témoignage, il l'a continué par la puissance du Saint-Esprit devant des milliers de personnes jusqu'à la fin de sa vie. Puis après, il parle de quelqu'un qui habitait à Carthage, Cyprien de Carthage, j'ai connu aussi Carthage, là, en Tunisie, et il dit, je ne croyais pas mon affranchissement possible, l'affranchissement du péché. Je me sentais prêt à m'abandonner au vice qui se cramponnait à moi. Et je me laissais aller au péché comme s'il avait été une partie intégrante de moi-même. Mais lorsque, par l'œuvre céleste du Saint-Esprit, une nouvelle naissance eut fait de moi un homme nouveau, pas un homme amélioré, hein, un homme nouveau, alors le prodige, ce qui était douteux, devint certain. L'aide vint pour ce qui paraissait difficile et ce qui semblait impossible devint réalisable. Si par l'esprit vous faites mourir les actes produits par votre propre nature, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Et puis, il y a encore un autre passage que je voulais souligner. Donc, certains hommes ont fait une expérience tout à fait particulière. Et Kuhn continue en disant, dans tous les cas, nous voyons que l'Esprit, par sa plénitude, apportant à la parole et au témoignage des apôtres l'autorité de Dieu, apportait. La plupart des cas se situent dans un contexte d'opposition des chrétiens. L'opposition des chrétiens sont remplis du Saint-Esprit pour faire face à des adversaires. Les situations ressemblaient aux événements de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit venait avec puissance sur Saul, sur Samson, sur les prophètes. L'expression nous fait songer à un torrent qui s'élance avec violence de la montagne, emportant tout sur son passage à un vent qui souffle avec impétuosité. C'est la plénitude acte. Et c'est le dernier texte. C'est cette expérience qu'au siècle passé, des hommes de Dieu ont fait et à laquelle ils ont souvent donné le nom de baptême de puissance. Et ils citent Whitefield, Finney, Moody, Purcell, Smith, Bengel, Gordon et Abby Simpson. Et il finit par une pensée de John Stott, qui est aussi un très cher ami pour moi, le premier anglais avec qui on s'est tutoyé. Une nouvelle plénitude, dit John Stott, peut précéder une nouvelle responsabilité et être donnée pour équiper en vue d'une tâche nouvelle et exigeante. Voilà, simplement pour vous montrer qu'il y a quand même le même esprit. Mais, trop souvent, quand vous avez lu une biographie où on a essayé d'expliquer une expérience qu'on a faite, on donne le nom de baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qui est vraiment biblique. C'est une expérience, bien sûr. Mais le baptême du Saint-Esprit, selon ce que vous avez lu, c'est réalisé à la Pentecôte, pour former en un seul corps les royaumes. Ce n'est pas une expérience qu'on fait après. Je crois qu'il le dit aussi. Bon. Maintenant, mes amis, comment se sont passés vos assiettes?